En cette période de l'Avent, alors que nous sommes à quelques jours de Noël, excusez-moi, j'aimerais que nous nous y préparions en réfléchissant, ou plutôt en nous mettant à l'écoute d'un des plus émouvants passages des Évangiles. Je veux donc parler du Cantique de Marie, appelé aussi le Magnificat. Alors ce nom de Magnificat, qui est un peu particulier, c'est du latin, vient du verbe magnifier en latin, qui est le premier que Marie utilisera pour s'adresser à Dieu quand elle dira « Mon âme magnifie le Seigneur ». C'est donc par ce cantique, cette déclaration de foi et ce cri de reconnaissance d'une femme que je vous invite à entrer dans le mystère de cette nuit, à nul autre pareil. En guise de préambule, j'aimerais vous lire le récit que Luc fait de la visite que Marie rendit à sa parente Élisabeth, et je prends ma Bible, qui elle aussi attendait un enfant, Jean, appelé le Baptiste, qui deviendra la voix qui crie dans le désert et aplanit les sentiers du Seigneur. Pour reprendre la prophétie du prophète Ésaïe. Je vais donc vous lire le passage de l'Annonciation de l'ange faite à Marie. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui sortira de toi, qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Le Magnificat, le Cantique de Marie, ainsi que le texte que je viens de vous lire, sont indissociablement liés entre eux par la présence de quelqu'un. Et nous irons ensuite, d'ailleurs, dans la foulée, le Magnificat, lorsqu'il est introduit par cette scène. On va donc prendre ici le chapitre 1 de l'Évangile de Luc, et nous allons lire les chapitres 39 à 56. Donc cet épisode, le premier épisode que je vais vous lire, suit immédiatement, ou quasi immédiatement, en tout cas dans le texte de Luc, la rencontre de l'ange, l'annonciation de l'ange faite à Marie. Tu peux mettre la suivante. Merci, Nicolas. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, donc qui est sa parente. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur la bassesse de sa servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Il y a donc, je vous le disais, une personne à l'œuvre dans les trois récits de l'évangile de Luc que j'ai partagé avec vous jusqu'ici. Et cette personne, mais vous l'aviez peut-être compris, c'est Dieu en la personne du Saint-Esprit. C'est bien lui qui est à l'œuvre dans les trois situations relatées. C'est lui qui couvre Marie de son ombre afin que le miracle de Noël puisse se produire. Un enfant d'homme, mais pleinement Dieu. C'est lui aussi, nous dit Luc, qui s'empare d'Élisabeth et de son fils à naître, Jean, pour accueillir comme il se doit Marie et celui qu'elle porte en elle, Jésus, son Sauveur et le nôtre. La salutation se devait d'être à la mesure de l'événement, la première rencontre, in utero, de deux êtres dont le destin était scellé dès avant la fondation du monde et annoncé par les prophètes, Jésus et Jean, par ordre de bienséance, inséparablement unis par la volonté du Père et par le sens même de leur prénom. Dieu sauve, et pour Jean, Dieu fait grâce. On ne peut pas sauver si on ne fait pas grâce. Vous l'aurez compris. Marie porte un joyau en elle, elle qui n'en est que l'écrin. Et qu'est-ce qu'un écrin si ce n'est un voile cachant encore pour un temps l'ineffable beauté de ce qu'il contient ? C'est le rôle de tout écrin de s'effacer devant ce qu'il recèle. C'est dans cette conscience de n'être rien qu'il faut chercher la grandeur de Marie. Une autre façon de dire que devant Dieu, on ne peut être grand que dans la soumission. Et c'est un chemin d'ailleurs que Jésus suivra lui aussi. C'est encore et toujours l'Esprit qui pousse Marie à louer Dieu pour sa bonté envers elle et envers son peuple. Cela vous étonne peut-être, étant donné que Luc ne mentionne pas cette activité de l'Esprit au moment où Marie exprime sa louange. Mais il ne faut pas être étonné, en fait. Car si Marie parle, c'est qu'elle a fait une expérience personnelle dans laquelle le Saint-Esprit l'a visitée, l'a enseignée, l'a littéralement illuminée. Il est d'ailleurs frappant que Marie n'ait pas déjà loué Dieu après que l'ange lui ait annoncé l'appel de Dieu sur sa vie. Elle ne loue pas Dieu à ce moment-là. Comme pour nous dire qu'un ange ne suffit pas, en tout cas apparemment, pour que la compréhension profonde et la reconnaissance frayent un chemin dans un cœur qui s'ouvre à Dieu. Il faut rien de moins que l'Esprit Saint et son action. Comme le disait Luther en commentant le Magnificat, et nous avons lu cette phrase en introduction, « Personne ne peut bien comprendre Dieu et la parole de Dieu » si cela ne lui est donné sans intermédiaire par le Saint-Esprit. Personne ne peut recevoir ce don de la compréhension de la part du Saint-Esprit s'il ne l'expérimente pas, ne le goûte pas et ne l'éprouve pas. Et c'est d'ailleurs dans cette expérience que l'Esprit nous enseigne. Il en fait en quelque sorte son école à lui, hors de laquelle on ne peut rien apprendre vraiment. En fait, hors de son école, tout devient bavardage, même la parole de Dieu. Ainsi, en éprouvant personnellement que Dieu fait de si grandes choses pour elle et en elle, Marie, une jeune fille peu considérée, pauvre et méprisée par le monde, apprend du Saint-Esprit une sagesse insondable et précieuse. Elle apprend tout simplement que Dieu est un Seigneur qui a pour unique occupation d'élever ce qui est abaissé et d'abaisser ce qui est élevé, de briser ce qui est fait et de refaire ce qui est brisé. Notre Dieu et celui de Marie est un Dieu qui regarde vers le bas en permanence. Il a les yeux posés sur ce qui semble infime, ce qui est négligé, piétiné, oublié. Les psaumes 138 et 113 expriment très bien cette vérité, me semble-t-il. Pour le psaume 138, l'Éternel est élevé. C'est vrai, il est Dieu. Mais il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Et puis pour le psaume 113, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu ? Il a sa demeure en haut et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Et souvenez-vous de ce petit passage qu'il rend qu'il fait mère, les stériles, ça va vous servir pour dans quelques instants. Dieu étant Dieu, il ne peut en sa nature regarder vers le haut, car en dehors de lui, merci Jean-Marie, c'est mon souffleur attitré, il apprend toutes les semaines, toutes les notes. Quel travail, merci pour ton travail Jean-Marie. Il ne peut pas non plus regarder autour de lui, car il est sans égal. Il ne peut poser son regard qu'en lui ou en dessous de lui, comme nous venons de le voir. Et là, son amour fait qu'il s'intéresse aux plus petits, aux plus humbles. Plus quelqu'un est conscient de sa petitesse, plus il est remarqué par Dieu. C'est comme ça que ça marche. Les hommes, eux, tout à leur folie de se prendre pour Dieu, ne regardent que ce qui est élevé. Ils regardent en permanence vers le haut, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils se cassent si souvent la figure. C'est excessivement dangereux de marcher en regardant en l'air. Le livre des Proverbes le dit très clairement, quel est le problème de l'homme. Proverbes 30, les versets 11 à 14. Il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Est-ce qu'on serait à notre époque? Il existe une génération qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il existe une génération aux yeux hautains et aux paupières insolentes. Il existe une génération dont les dents sont des épées, des mâchoires, des couteaux, pour dévorer les plus humbles sur la terre et les plus pauvres parmi les hommes. Voilà donc Dieu, voilà donc l'homme, et voilà Marie. Une femme parmi les ignorés de la terre, mais qui est connue de Dieu. Marie est connue de Dieu. Alors je ne sais pas pour vous, mais cette phrase, moi, je la trouve extraordinaire. C'est extraordinaire, mais c'est pourtant la vérité. L'ange envoyé pour lui annoncer la plus inattendue des nouvelles ne la salue-t-il pas en disant « Le Seigneur est avec toi, n'aie pas peur, Marie ». L'ange connaît le nom de Marie et par déduction, on peut donc dire que cet ange envoyé par Dieu connaît Marie personnellement. Car tu as trouvé Dieu aussi, mais grâce devant Dieu. Marie fait partie de ceux qui sont connus de Dieu. Et dès lors, elle ne doit plus avoir peur. Elle fait partie de ceux qui ne doivent pas avoir peur de Dieu. D'autres devraient avoir peur, mais Marie n'en fait pas partie. Alors tout ce que je viens de dire sur Dieu et ses préférences, qu'il préfère les petits, les humbles, ses préférences donc pour ce qui est rejeté, ignoré, mais Marie savait tout ça, mes amis. Mais elle ne l'avait pas encore expérimenté pour elle-même. De l'intérieur, tout ça était, somme toute, relativement théorique. Néanmoins, la parole de Dieu était déjà en elle avant que le Saint-Esprit ne se saisisse d'elle et ne donne de main à l'existence, à la vie, ces paroles de Dieu qu'elle avait en elle. Et si je dis ça, c'est parce que Marie, poussée par le Saint-Esprit, va citer l'Écriture dans son cantique, dans sa louange. Ces paroles ne sont pas totalement d'elle, elles appartiennent à quelqu'un d'autre. Alors la grâce qui lui est faite, porter le Messie, et pour elle, bien entendu, et pour personne d'autre. Elle est bien évidemment unique, cette grâce. Elle ne pourra jamais être produite. Un Messie, il n'y en a qu'un. Mais elle fait néanmoins aussi écho à une autre, à laquelle Marie, inspirée par l'Esprit, lit son destin à 1000 ans de distance. Ce texte qu'elle cite dans son cantique à 1000 ans. En effet, le cantique de Marie est inspiré par la poésie de l'Ancien Testament, et en particulier par le premier livre de Samuel, et d'un autre cantique proposé par une autre femme. Je veux parler de Anne, la maman du prophète Samuel, pour ceux qui ont un peu de culture biblique. Là, c'est la mauvaise place. Hein. Je penche à gauche. Hein, donc. Prenons deux versets de notre cantique de Marie, les versets 48-53. Il, c'est-à-dire Dieu, a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et le deuxième verset, verset 53, il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Oh oui, c'est vrai que ma petite Anne ici, elle n'est pas très en forme, mais vous voyez, là j'ai peint ça cette nuit. Ça n'a pas vraiment eu le temps de sécher tout à fait. Oui, ça va peut-être falloir couper au montage. Hein. Ces paroles, Marie les emprunte donc à une autre femme, tout aussi négligeable qu'elle. Marie connaît la parole, mais pour la première fois étant donnée l'illumination de l'Esprit-Saint, elle se l'approprie. Elle la vit et la comprend de l'intérieur, profondément, comme une évidence. Oui, Dieu tient ses promesses.
Oui.
Il a envoyé son Messie en ce monde. Et oui, encore oui, il choisit toujours ce qui est humble et méprisé, ce qui n'existe pas aux yeux du plus grand nombre, pour accomplir sa volonté et confondre ce qui est. Marie sait maintenant, habitée qu'elle est par une douce mais puissante certitude, qu'elle n'est rien aux yeux du monde, mais qu'elle est tout un monde à venir aux yeux de Dieu. Et si le miracle peut avoir lieu, c'est parce qu'elle fait de sa condition la plus grande de ses vertus, car Dieu en a fait une richesse. Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Je suis la dernière de ses servantes. Ce que l'Esprit-Saint met en cohérence dans le cœur de Marie, c'est la parole de Dieu. Et celle-ci se dévoile alors dans toute sa vérité. Tout comme Anne, la mère du prophète Samuel, Marie ne peut pas avoir d'enfant. Car là où la maman du prophète est stérile, Marie, elle, n'est pas encore mariée. Il leur faudra donc à toutes les deux un miracle pour que la volonté de Dieu se réalise. Mais ce n'est pas le seul lien unissant ces deux femmes et justifiant la présence discrète de Anne au cœur de la louange que Marie adresse à Dieu. Il y a aussi la similitude de destin. Raison sans doute pour laquelle l'Esprit de Dieu place dans l'âme de Marie justement cette référence à la mère du prophète Samuel. Le lien entre ces deux femmes est qu'elles auront d'autres enfants, mais que leur fils aîné, Jésus pour l'une et Samuel pour l'autre, ne leur appartiendra pas. Leurs fils seront totalement consacrés à Dieu. Elles devront accepter et vivre cette blessure. Anne offrira son fils à Dieu en vertu de la promesse qu'elle lui a faite. Et on va prendre ce passage dans le premier livre de Samuel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de sa servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc elle fait un vœu de Naziréa à la place de son fils éventuellement à naître, puisque je vous l'ai dit, elle est stérile. On sait qu'une fois l'enfant né, elle le sevrera, elle le laitera jusqu'au moment où il est sevré, et elle le portera au temple. Enfin, pas au temple, mais là où réside le prophète de l'époque, en tout cas le sacrificateur de l'époque. Et elle abandonnera son fils là, à la bonté de Dieu, pour servir Dieu. Alors Marie, il est clair, ne fera pas une telle promesse, puisqu'elle n'est demandeuse de rien, et que par là même, elle n'est pas à l'origine de l'existence de Jésus. L'existence de Jésus ne procède pas de sa prière à elle, de sa promesse à elle. La promesse, mes amis, c'est le Père de Jésus qui la fera. Et cette promesse, elle consistera à offrir son Fils en rançon pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Ça, c'était la promesse de Dieu, contenue déjà dans les textes prophétiques de l'Ancien Testament. Qu'un jour, Dieu donnerait au monde son Messie, un Sauveur. Marie n'a donc rien choisi. Elle n'a rien promis. Mais elle sait. Elle sait rien qu'au travers du titre de celui qu'elle porte en elle et que l'ange lui a annoncé qu'il ne lui appartiendra pas. Et on va reprendre ces trois versets en Luc 1, 31-33. Merci, Nicolas. « Voici que tu seras enceinte, lui dit l'ange, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jusque-là, c'est très gentil, c'est génial. Hein? C'est après qu'elle va comprendre. « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Elle sait très bien qu'elle va, à ce moment-là, connaissant la parole de Dieu, elle sait très bien qu'elle va être enceinte, entre guillemets, elle va porter le Messie. et que ce Messie pardon, sera appelé fils du Très-Haut et non pas fils de Marie. Elle sait ce que ces paroles impliquent. Et elle le sait tellement bien que dans sa louange, dans son cantique, elle dit « Car voici, désormais toutes les générations me diront heureuse. » Toutes les générations, hein. Moi je ne me dirai pas heureuse, mais les générations qui vont me suivre me diront bien heureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Elle sait que ce Fils sera partagé avec le monde entier, que le bonheur qu'elle expérimente est lié au choix de Dieu pour sa vie, mettre au monde le Messie que le monde attendait. C'est là son bonheur en tant que femme, en tant que juive. Mais ce bonheur s'arrêtera quasi là. Il y a encore un peu plus entre ces deux femmes, du moins me semble-t-il. En tout cas, Marie semble l'avoir compris de là sa louange de ce que Dieu s'est abaissé littéralement vers elle. En effet, toutes les femmes pieuses en Israël espéraient secrètement mettre au monde le Messie. C'était le désir secret de beaucoup de femmes juives. De là, la double peine infligée en cas de stérilité. Parce qu'en cas de stérilité, la stérilité était tout le temps, en permanence, imputée à la femme, jamais à l'homme. Et quand c'était le cas, quand une femme juive était stérile, non seulement elle était considérée comme une inutile bouche à nourrir, mais en plus, la deuxième peine, c'était qu'elle ne mettrait forcément jamais au monde le Messie, celui qui devait venir. Et encore aujourd'hui, de jeunes filles juives pieuses espèrent peut-être, en secret, puisque ça ne vous aura pas échappé, nos amis juifs ne croient pas que Jésus est le Messie. Donc ils l'attendent toujours. Mais c'est Marie, nous le savons, qui a eu ce privilège et ce fardeau. Dernier lien, entre les deux femmes. Anne a mis au monde un prophète, Samuel. Prophète qui donnera l'onction d'huile royale au roi David. C'est Samuel qui va oindre de l'huile sainte le roi David. Le roi David qui sera le fondateur de la lignée royale dont le Messie devait obligatoirement descendre. Donc à 10 siècles de distance, Marie, en invitant Anne au cœur de sa louange, rend donc hommage à celle dont le fils a salué la venue du sien en consacrant la lignée royale messianique. Tout ça, c'est dans le Magnificat. Et c'est là que vous vous dites quelle chance qu'a des pasteurs. Hein? Quand même, un petit peu. Quant à l'onction de Jésus, revenons à lui bien entendu, elle se fera elle aussi en présence d'un prophète, Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, même s'il se trouve dans les évangiles. Mais en baptisant Jésus dans l'eau du Jourdain, ce n'est pas l'onction royale que le prophète administrait au roi, mais la marque de son ministère de serviteur souffrant, marquant ainsi l'accomplissement des prophéties et faisant le lien entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance en la présence, en un même lieu et au même moment, du prophète et du Messie, chose forcément qui n'était jamais arrivée jusque-là. Pourtant, une onction royale, il y en a eu une au baptême de Jésus, juste après son baptême, rappelez-vous. Je prends le passage en Marc 2. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon affection. » C'est Dieu qui oint Jésus de l'onction royale. Seul Dieu pouvait oindre le Messie, et tous ces événements nous disent que la venue en ce monde de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'était pas seulement l'affaire du Père et du Fils, mais aussi l'affaire de l'Esprit-Saint, qui est omniprésent dans tout ce parcours. Cet esprit qui allait donc couvrir de son ombre cette femme insignifiante aux yeux du monde, cette anonyme parmi les anonymes. Il fallait que ce soit l'humble Marie, car elle allait porter celui qui laverait les pieds de ses disciples. Celui qui dirait « Je suis venu pour servir tel père, tel fils » et oserais-je ajouter « telle mère, tel fils ». Je terminerai en disant que la voix de Dieu ne s'est fait distinctement entendre que deux fois dans les évangiles. Lors de la transfiguration, ce moment où Jésus prend ses trois plus proches disciples, et tu as une petite bavette, pourrait-on dire, avec Moïse et Élie, et où Pierre ne sait plus quoi faire, il propose d'installer des tentes pour tout le monde, pour passer la nuit, c'est Pierre. Hein. Et puis la première fois, en fait, chronologiquement, c'est lors du baptême de Jésus, où le ciel s'ouvre et où la voix du Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors mes amis, pour terminer, j'aimerais simplement vous rappeler une petite chose, mais j'espère que ça vous fera plaisir et surtout que ça changera quelque chose. Cette même voix, nous l'avons nous aussi entendue. Peut-être même lors de notre baptême. Moi, pas vu les conditions de mon baptême, ça risquait pas d'arriver. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un livre en cours de préparation sur le sujet. Il fait 800 pages, hein, comme quoi mon baptême. Car nous aussi, nous sommes les fils et les filles du Père en qui il a mis toute son affection et son esprit. Nous aussi, il nous ombre, mais du dedans. Et tout comme pour Marie, son désir est d'allumer les luminaires de notre louange et que celle-ci résonne dans le temple que nous sommes. Pour une simple bonne raison, parce que pour nous aussi, sur nous aussi, Dieu a jeté les regards et qu'il a fait et il fait encore tous les jours de grandes choses pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.